Bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est le général Mathéos, commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. Général, bonjour.
Bonjour Elisabeth, merci beaucoup pour votre invitation.
Merci à vous d'avoir répondu à cette invitation alors que vous allez bientôt quitter vos fonctions. C'est le général Aouchine qui va vous succéder. Alors vous-même, vous avez pris le commandement de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. En juillet 2022, vous aviez déjà rejoint le territoire comme adjoint. Et vous connaissiez déjà le territoire puisque vous avez commandé la compagnie de Nouméa et des îles de 2004 à 2007. Quand vous êtes revenu en 2021, est-ce que la Calédonie que vous avez redécouverte était différente de celle que vous aviez connue lors de votre précédent séjour ?
Oui, alors pour moi, c'est une page qui se tourne, une page importante, parce que j'aurais effectivement passé 7 ans sur ce territoire en 2 épisodes. Et quand j'ai retrouvé la Nouvelle-Calédonie en octobre 2021, à quelques semaines du référendum, effectivement, j'ai retrouvé une Nouvelle-Calédonie qui n'avait pas le même visage que celle que j'avais quittée quelques années plus tôt. Une Calédonie qui était tiraillée, c'était à la veille du dernier référendum. Une Nouvelle-Calédonie aussi qui était confrontée à des problèmes économiques. Et puis, une Nouvelle-Calédonie aussi confrontée aux problèmes de sa jeunesse. Ce point particulier était déjà en germe quand j'étais là à mon premier séjour. Mais hélas, le problème d'une certaine partie de la jeunesse qui dérive était devenu, en 2021, à mon arrivée, un problème beaucoup plus important qu'auparavant. Et d'ailleurs, malheureusement, ce problème n'a cessé de prendre de l'importance.
Mais on imagine qu'à l'époque, vous ne pensiez pas connaître les événements que la Calédonie a connus et vous avez été aux premières lignes. On va y revenir en mai 2024. Il y avait des signes avant-coureurs. À partir de quand est-ce que vous avez senti que les choses pouvaient dégénérer, que la tension était très très vive ?
Alors, l'année 2023 et 2024, jusqu'au mois de mai, ont été marquées par des tensions dans le monde économique, la fermeture de KNS, des blocages de mines, une vraie incertitude sur l'avenir institutionnel. Et puis, effectivement, des rassemblements. Je me souviens avoir eu des gendarmes blessés en février 2024. Nous voyons bien que l'ambiance se détériorait, que le dialogue était compliqué. Et puis, vous savez, une des missions de la gendarmerie, c'est de construire des ponts entre les uns et les autres. C'est vrai à Nouméa, c'est aussi vrai en Brousse. Et on voyait bien qu'au fur et à mesure, les relations étaient difficiles. Voilà, les relations étaient difficiles. Et puis même nous, dans notre mission habituelle de construire des ponts, parce que la gendarmerie dans le paysage calédonien depuis toujours a une légitimité partagée, reconnue par tous, nous sentions, même dans les profondeurs de territoire, que le dialogue devenait difficile.
Alors la crise a explosé en mai 2024 avec des violences insurrectionnelles inédites. Hein. On a dit, on ne sait toujours pas comment les qualifier exactement. Est-ce que vous aviez déjà vécu ce type de situation ? Est-ce que, presque à titre personnel, vous y étiez préparé ?
Alors non, je n'avais pas vécu une crise d'une telle intensité, d'une telle longueur. J'ai connu des situations difficiles. J'ai été engagé dans les Balkans au début des années 2000. J'ai été également engagé en Guadeloupe dans des conditions difficiles de maintien de l'ordre. J'ai été engagé ensuite sur la crise des Gilets jaunes, puis sur la crise du Covid. Donc j'ai connu des situations difficiles, mais une situation aussi difficile, aussi violente que celle que nous avons traversée il y a un peu plus d'un an, non, je n'avais pas connu une telle situation.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Qu'est-ce que vous retenez de ces moments qui ont duré, hein ? Ça a commencé le 13 mai, mais on sait que ça s'est prolongé pendant un certain temps. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, le plus marqué ? Qu'est-ce que vous en rapporterez ?
Ce qui m'a le plus marqué, c'était de voir cette population désemparée par cette extrême violence d'une minorité qui n'avait plus ni foi ni loi. Et je pense à tous ces Mondoriens du Sud, notamment tous ces gens qui étaient profondément marqués par ce qu'ils subissaient, pas que dans les conséquences économiques et pratiques, mais aussi dans ce qu'ils croyaient, dans la foi qu'ils avaient dans leur territoire. Voilà, ce qui a été vraiment marquant, c'était que face à la détresse de cette population, dans le Grand Nouméa, dans le Sud, mais aussi sur la côte Ouest, j'ai des souvenirs d'une partie de la population qui attendait les gendarmes comme si vraiment nous étions ceux qui allaient les sauver, parce qu'il y avait une peur très profonde. Et puis, il y avait quelque chose de cassé, comme si la foi en, de main était cassée.
Un véritable traumatisme, en fait, pour la population calédonienne.
Oui, c'était un véritable traumatisme. Nous avons été, les gendarmes, une force de reconquête, mais aussi de stabilisation. Et puis, dans les missions que m'a fixées le haut-commissaire de la République aujourd'hui, qui s'inscrivent dans la parfaite continuité de celles que j'avais reçues auparavant, il y a vraiment cet objectif de rassurer la population, de montrer à la population que la gendarmerie est présente partout, partout, le jour et la nuit, parce que ce traumatisme, nous le sentons aujourd'hui. Nous le sentons tous les jours et partout.
Alors, une violence insurrectionnelle inédite qui a duré un certain temps. Est-ce qu'à un moment, est-ce que vous avez toujours été sûr que vous alliez réussir à rétablir l'ordre public, ou est-ce que vous avez douté, est-ce qu'on a pu craindre un moment que la situation échappe au service d'ordre républicain ?
Non, je n'ai jamais douté que nous allions, que nous aurions le dernier mot. D'ailleurs, je l'avais annoncé assez vite. C'était sûr que nous allions avoir le dernier mot parce que nous savons faire face à ce type de situation, parce que l'État a engagé des moyens considérables pour établir l'ordre public républicain ici sur ce territoire de Nouvelle-Calédonie. Parce que je connais bien la gendarmerie, j'ai entièrement confiance dans la capacité à la gendarmerie, que ce soit la gendarmerie territoriale, la gendarmerie mobile qui a été en première ligne, mais aussi les forces spéciales de la gendarmerie, le GIGN. Je sais que nous sommes capables de faire face à toutes les situations, y compris les plus dégradées, y compris les plus dégradées le plus loin de notre territoire hexagonal. Donc je savais que nous aurions le dernier mot. Le haut-commissaire de la République avait fixé des objectifs très clairs, très méthodiques dans sa reconquête, dans ce qu'il attendait de la gendarmerie. Donc il était sûr et certain que nous aurions le dernier mot. Et ce qui s'est d'ailleurs vérifié, ça a été dur, ça a été très long, et nous le savions dès le début que ça allait être dur et très long, mais nous l'avons fait avec toute la rigueur et la fermeté nécessaire. Nous l'avons fait aussi avec le plus grand discernement, et quand je parle de discernement, je crois que ce qui a été essentiel, c'était la maîtrise de la force, parce qu'ici nous sommes en République française, et que la force qui nous est confiée, qui est confiée à la gendarmerie, ne doit pas devenir la violence. Et nous aurions pu sans doute hâter les choses, mais en montrant de la violence qui aurait été catastrophique, ce qui aurait été contre nature et qui aurait empoisonné l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Donc nous avons agi avec toute la fermeté, parce que force doit rester à la loi, mais aussi avec tout le discernement dans l'engagement, dans l'usage de la force, parce que c'est notre légitimité et puis c'est aussi notre honneur.
D'où notamment le recours aux coutumiers pour essayer d'obtenir la reddition d'un certain nombre de gens plutôt que de rentrer par la force.
Oui, bien évidemment, nous, les gendarmes, nous sommes des soldats de la paix. La paix, pas n'importe quel prix, pas dans le compromis lâche, mais bien sûr que toutes les voies doivent être employées pour éviter la confrontation. Et dans ces voies-là, à un moment, il y avait la nécessité, la possibilité de discuter avec les autorités coutumières. Et ça a été fait. C'est ce que j'avais demandé à mes gendarmes, à mes camps de compagnie, à chaque fois, d'entamer des discussions avec des autorités coutumières qui étaient de remarquable bonne volonté, il faut le dire, qui beaucoup étaient dépassés par leur jeunesse, par une jeunesse qui avait perdu tout repère. Mais effectivement, il y a cette voie du dialogue qui est la voie normale de résolution d'un conflit avant d'engager la force. Et bien sûr, cette voie du dialogue était faite sous contrôle du haut-commissaire de la République, mais aussi du procureur de la République. Et en tout cas, c'est la voie que nous privilégions par construction, les gendarmes, avant d'engager la force.
Alors vous avez souvent dit que qu'on avait évité la guerre civile. C'était vraiment le risque qui existait en Nouvelle-Calédonie dans ces mois de mai-juin 2024 ?
Alors, quand on revient en arrière avec beaucoup d'émotion, parce que j'ai aussi, mon adjoint et moi-même en parlions hier, nous avons été marqués par ce déchaînement de violence. Alors, c'est notre métier d'y faire face, mais nous avons quand même été très marqués. Et quand nous regardons en arrière ce qui a pu se passer, effectivement, à un moment, les tensions étaient d'une telle intensité, la violence avait atteint un tel paroxysme, que si l'État n'avait pas été en mesure d'apporter une réponse ferme, massive, déterminée par l'envoi d'escadrons qui immédiatement ont pu reconquérir le terrain Nouméa, dans le Grand Nouméa et en Brousse, je pense que si l'État avait failli, il y aurait pu avoir des réactions de légitime défense. En tout cas, c'est comme ça que certains l'avançaient. Donc, effectivement, la réponse de l'État a permis d'éviter que certains considèrent que c'était à eux de se défendre parce qu'il y avait une carence.
Ah, il y a eu cette réponse de l'État, vous le dites très ferme, parce que très vite, il est apparu que des renforts étaient nécessaires. Comment est-ce qu'on gère des renforts de gendarmerie ou des renforts de forces de sécurité intérieure qui arrivent en nombre, comme ça en Nouvelle-Calédonie, alors que vous êtes déjà pris par une situation très tendue sur le terrain? Comment est-ce qu'on fait pour coordonner tout ça? C'est votre métier aussi?
Oui, c'est notre métier, et je dirais même que c'est notre essence militaire. Je crois que seule une force militaire, et la gendarmerie en est une, est capable de monter en puissance. Bien sûr, nous l'avons fait avec les camarades des FANC et le général Latil, qui a été d'un secours très précieux dès le début, dès les premières heures de la crise. Avec les forces armées, nous parlons le même langage. Pour beaucoup, nous avons reçu la même formation. En tout cas, notre identité militaire, notre statut militaire, nos savoir-faire militaires ont permis ce miracle logistique, parce qu'on peut parler de miracle logistique quand on regarde la capacité de monter en puissance. Quelques jours après le 13 mai, nous avions multiplié les effectifs par 3, avec des moyens spéciaux qui étaient arrivés dans des conditions qui étaient incroyables et qui relevaient de l'impossible. Je crois vraiment que c'est notre organisation militaire, notre discipline et notre capacité à parler le même langage que nos camarades militaires qui nous ont permis de réussir ce miracle, plus qu'un exploit, ce miracle logistique. J'ai aussi dans mes rangs des personnels civils, des gendarmes, des personnels de gendarmerie qui ont un statut particulier, on les appelle le corps de soutien, qui sont sous la direction d'une cadre civile. C'est elle qui était à la manœuvre. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est la force de la gendarmerie, d'être capable d'intégrer, d'amalgamer plusieurs corps, plusieurs statuts sous l'autorité militaire pour remplir la mission et cette mission logistique qui était essentielle ensuite à la mission opérationnelle.
Et alors, à l'intérieur, parce qu'on parle beaucoup de Nouméa, du Grand Nouméa, c'est vrai que c'était là où c'était le plus intense, mais à l'intérieur, les brigades de gendarmerie ont aussi été en première ligne, souvent prise pour cible. On sait que justement les gendarmes territoriaux sont au contact de la population. Ça en est où aujourd'hui? Est-ce que le lien s'est refait entre vos gendarmes et la population?
Oui, alors, vous savez, nous avons 29 brigades territoriales qui sont autant de marques de la souveraineté, le drapeau flotte dans toutes nos brigades. Et pour nous, c'est important, ce symbole de la souveraineté de la France, qui passe par l'application de la loi sur laquelle veillent nos gendarmes. Et vous avez raison de le souligner, c'est important pour nous que nous soyons au contact de la population. Et depuis que la gendarmerie est présente sur le territoire, c'est-à-dire ça fait plus d'un siècle et demi, hein, puisque la gendarmerie est arrivée très très vite après la prise de possession, nous avons eu à cœur d'entretenir des liens vraiment de proximité, de confiance avec la population. Et cette tradition, cet héritage, cette nécessité, c'est vraiment maintenu. Nous avons dans nos rangs des gendarmes calédoniens qui nous aident à remplir cette mission de contact. Et puis, nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est assez paradoxale, puisque dans beaucoup de brigades, les relations avec la population sont quasiment familiales. Je connais des gendarmes qui sont invités, qui reçoivent. Certains gendarmes, d'ailleurs, ont entretenu des liens de famille. Donc, cette relation avec la population, elle est pour nous sacrée, elle est importante pour remplir la mission. Et puis, au-delà des aspects missionnels, c'est ça l'âme de la gendarmerie, notre capacité à épouser la population, à épouser les territoires dans lesquels nous servons. Alors, effectivement, dans certaines brigades, je pense aux brigades qui ont été attaquées, ça a été très dur pour les gendarmes, très dur de voir que cette population à laquelle ils étaient profondément attachés, qu'ils les respectaient d'ailleurs, une partie de cette population a pu se dresser contre la gendarmerie. Ça a été dur pour les gendarmes qui font leur métier avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de conviction et de détermination. Et un de mes défis, après avoir passé le paroxysme de la crise, ça a été de renouer les contacts. Ça a été fait, pas partout, pas dans tous les territoires, pas encore partout, mais en tout cas, c'est pour moi un objectif vraiment important. Et petit à petit, vous savez, c'est comme le pardon, il faut parfois du temps pour effacer les blessures du passé, mais en tout cas, la mission de contact avec la population, cette mission de confiance partout dans le territoire, est une priorité et elle se maintient.
Alors maintenant, bon, l'ordre, ça fait plus d'un an, l'ordre est globalement rétabli, même si on va en parler, il y a encore quelques petits problèmes. Mais l'un des points chauds de l'insurrection, c'est bien sûr Saint-Louis, on est obligé d'en parler. Vous faisiez allusion tout à l'heure aux populations du monde hors sud. Comment a été pensé ce verrou sur la route de Saint-Louis? Ça a déjà été expérimenté ailleurs, c'était une expérience et c'était la seule manière de sécuriser vraiment cette route?
Alors le verrou est une exception calédonienne, il y a beaucoup d'exceptions ici. Sur ce territoire, le verrou en est une. Je crois qu'il y a, enfin, je suis sûr, je sais qu'il n'y a aucune route sur le territoire français qui bénéficie d'un tel dispositif qui consiste à être en mesure pour nous, les gendarmes, de fermer un axe à la circulation. Dispositif aussi qui permet d'assurer une densité de gendarmes très très importante. Le haut-commissaire de la République m'a confirmé sa volonté de sanctuariser cet axe pour empêcher toute violence, pour prévenir toute tentative d'agression. C'est une question délicate, Saint-Louis. Je sais que beaucoup ont souffert, mais je dois dire que c'est mon devoir de rendre hommage à tous ceux qui, à la tribu, au sein de la tribu, ont fait en sorte et font encore en sorte que les choses puissent évoluer favorablement. Il y a des tas de personnes de bonne volonté dans cette tribu. Je pense aux mamans qui ont joué un rôle important à la fin de la crise. Je pense aussi en ce moment aux coutumiers qui ont compris qu'il fallait reprendre en main une jeunesse qui s'était complètement perdue, qui s'était perdue dans la violence la plus aveugle. Voilà, c'est aussi ça Saint-Louis, c'est des gens qui aspirent à vivre en paix, qui sont mortifiés profondément par le comportement de certains de leurs jeunes, qui sont mortifiés parce qu'ils ont perdu leur église, leur école, qui était le cœur historique de leur lieu de vie. Mais c'est vrai que cette tribu, des jeunes de cette tribu posent des problèmes graves, puisque nous étions quasiment en situation de guerre avec des jeunes qui voulaient tuer des gendarmes, hein, c'était clairement leur intention. J'espère que l'avenir sera plus paisible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une jeunesse à Saint-Louis qui est perdue, qui s'est perdue dans la violence la plus aveugle, qui prend en otage une partie de la population, une partie de la population de la tribu, mais aussi et surtout les gens qui habitent le Sud. C'est scandaleux, c'est complètement immoral, c'est lâche. Et c'est bien la raison pour laquelle nous sommes présents et nous resterons présents jusqu'à ce que cette menace soit éradiquée.
Mais il y a un moyen de l'éradiquer, il y a un moyen de... On a l'impression que ça dure depuis 40 ans. Est-ce qu'il y a un moyen de régler la situation? Et est-ce que c'est aux gendarmes de le faire ou à d'autres autorités? Est-ce qu'un jour, Saint-Louis va pouvoir être normalisé, va pouvoir être comme toutes les collectivités de Calédonie?
Alors, vous posez une question qui dépasse mes simples compétences. J'y crois, je crois profondément, parce que c'est mon métier, que la justice doit passer, et le procureur de la République est très ferme sur le traitement des infractions commises par ces jeunes de Saint-Louis. Beaucoup sont en détention. Je rappelle que nous avons interpellé, entre le mois de mai et le mois de décembre, 80 personnes. Beaucoup sont encore incarcérées. La réponse pénale est indispensable. Maintenant, comme vous le soulignez, je crois que le problème d'une partie de la jeunesse de Saint-Louis dépasse la prise en compte pénale, que derrière, il y a un problème de société qui doit être prise en compte, pas seulement par les juges, pas seulement par les gendarmes, mais par les autorités coutumières. Enfin, il y a encore beaucoup de travail à faire à Saint-Louis, je suis bien d'accord avec vous. Et puis, vous savez, j'ai dégagé deux axiomes, je le dis très humblement, mais au bout de 7 ans en Nouvelle-Calédonie, je constate malheureusement que tout commence et tout finit à Saint-Louis en termes de crise. Et puis je constate aussi que chaque crise a été plus longue et plus violente que la précédente en ce qui concerne Saint-Louis. Ce sont un peu les deux vérités qui m'ont sauté aux yeux. J'espère que l'avenir me démentira. J'ai bon espoir parce que je crois que ce qui s'est passé, la violence extrême et inédite qui s'est produite sur cette route, a permis à un certain nombre de personnes de bonne volonté de prendre conscience que ce n'était plus possible.
Alors, en dehors de Saint-Louis, donc on le disait, l'ordre est aujourd'hui globalement rétabli en Nouvelle-Calédonie, mais il y a ces derniers temps, dernières semaines, une recrudescence des actes de délinquance. Bon, à Nouméa, on voit des docks qui brûlent, des incendies, des dégradations. Ça veut dire que tout n'est pas encore réglé? Le feu de l'insurrection couve encore, ou est-ce que c'est de la délinquance, entre guillemets, ordinaire?
Alors, Il y a indubitablement un avant et un après le 13 mai. Nous avions des problèmes avec une partie de la jeunesse concentrée dans le Grand Nouméa, en perte totale de repères, qui se qualifiait, qui se remarquait par un comportement extrêmement violent, un comportement hors la loi, avec la recherche de la bagarre, comme ils disent, avec les gendarmes, comme si c'était une preuve de virilité. Bon, nous avions déjà une jeunesse qui posait des problèmes. Mais depuis le 13 mai, cette jeunesse est encore plus décomplexée dans son rapport à la violence vis-à-vis des gendarmes et recherche clairement le contact. Donc, effectivement, depuis le 13 mai, nous voyons, nous entendons ce que nous appelons un bruit de fond qui se caractérise par des faits plus fréquents et sans doute plus graves que ce que nous pouvions constater en période normale avant le 13 mai. Et quand je parle de faits plus graves, c'est des agressions systématiques contre les gendarmes, mais c'est aussi le fléau des cambriolages, c'est aussi des attaques à main armée dont vous avez entendu parler. Voilà, donc clairement, nous sommes face le maintien d'une délinquance à un niveau qui est anormalement élevé si on regarde l'histoire dans le moyen terme de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est bien la raison pour laquelle nous maintenons un dispositif fort, sous contrôle très étroit du haut-commissaire de la République, à qui je rendais compte quotidiennement sur l'engagement des gendarmes, et notamment des gendarmes mobiles, que ce soit à Nouméa ou dans le Grand Nouméa ou ailleurs dans le territoire, parce que nous devons maintenir cette présence. Effectivement, il y a un niveau de délinquance qui n'est pas habituel ici, aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie.
Et la réponse, c'est clairement le maintien d'effectifs de forces de l'ordre en nombre suffisant.
Oui. Alors, c'est une décision qui revient à l'autorité politique. Ce qui est sûr, c'est que la gendarmerie, enfin l'État, a consenti les moyens nécessaires pour établir l'ordre. Ces moyens resteront pour stabiliser la situation et pour maintenir la paix autant que nécessaire.
Alors, Général, il y a eu les émeutes, bien sûr, mais votre séjour ne se résume peut-être pas complètement à ça. Quels sont les autres temps forts de votre mission ces derniers mois? À quoi vous êtes-vous consacré? Qu'est-ce que vous retenez du reste de votre mission en Nouvelle-Calédonie?
Alors, vous savez, Elisabeth, la Nouvelle-Calédonie, c'est un pays qui parle aux gendarmes. C'est un territoire qui nous touche profondément. À l'issue de mon premier séjour, je me souviens avoir retrouvé des anciennes Calédonies. Nous avions quelque chose que les autres n'avaient pas. Nous avions aimé ce territoire. Et bien sûr, les événements de 2024 ont été marquants, mais bien sûr, je ne retiens pas que ça. Et ici, j'ai rencontré des gens exceptionnels. J'ai rencontré aussi, au-delà des paysages, une richesse humaine extraordinaire. Et c'est cette Calédonie en laquelle je veux croire, et je crois que c'est le vrai visage de la Calédonie, ce territoire tourmenté qui est fort de ses sourires, de ses richesses humaines, de ses mélanges aussi, parce que c'est ça qui est beau en Nouvelle-Calédonie, c'est ces mélanges. Je dis souvent, quand les gens que je rencontre, que ce soit en tribu, sur la côte ouest, quand je leur parle de leur famille, je leur dis, mais c'est incroyable votre histoire de famille, il faudrait écrire un livre, parce que ici, les histoires sont souvent romanesques. Des gens qui sont venus du bout du monde, des parias qui ont défriché la terre à la sueur de leur front, qui ensuite sont allés se battre pour le drapeau. Voilà, il y a ici de très belles histoires. Et c'est pour ça que je quitterai la Calédonie avec beaucoup de tristesse. Tant cette terre est attachante, tant cette terre est belle, belle de ses paysages, mais belle aussi de ses femmes et de ses hommes qui la font. Et je la quitterai aussi avec optimisme, parce que je sais qu'au-delà des difficultés actuelles qui sont lourdes, qui sont complexes. Je crois profondément dans la capacité des Calédoniennes et des Calédoniens à relever la tête et puis à assumer ce destin commun que finalement tous appellent de leur vœu.
À titre personnel, on ne ressort pas indemne des mois que vous avez vécu ici? Ça va laisser une marque ou c'est une expérience supplémentaire? Vous le vivez comment?
Non, je le vis comme une chance exceptionnelle. J'ai eu la chance de commander des gendarmes qui m'ont impressionné. Des moments très difficiles m'ont marqué. J'ai perdu 2 gendarmes qui étaient sous mes ordres. J'ai eu plus de 600 gendarmes blessés en 2024 et ils ont été blessés parce que je leur avais donné l'ordre d'aller au contact, de s'engager. Pour un chef, ce sont des décisions lourdes. Mais effectivement, je quitterai cette terre avec beaucoup d'émotions. J'ai un lien charnel avec cette terre. J'ai une fille qui est née ici il y a bientôt 18 ans. Et puis, j'ai profondément aimé ce territoire que j'ai pu sillonner. Donc, pour moi, c'était une chance exceptionnelle d'être nommé à la tête des gendarmes, dont j'ai été très fier. J'ai été très fier de tous mes gendarmes. Et je mesure la chance qui m'a été faite d'avoir été placé à la tête de cette belle gendarmerie pendant ces années qui n'ont pas été toujours faciles.
Est-ce qu'on peut vous demander votre nouvelle affectation? Parce que pour l'instant, rien n'a filtré.
Non, alors rien n'est encore décidé, puisque c'est le président de la République qui décidera de mon affectation en Conseil des ministres. C'est ainsi que les généraux sont nommés. Mais je vais rejoindre Paris, voilà, avec une certaine, je vous le dis, tristesse et beaucoup de nostalgie. Et je compte bien sur mes amis calédoniens pour venir me voir.
Lors de ce séjour, vous avez obtenu votre 3e étoile aussi, c'est normal, ça fait toujours plaisir.
Oui, écoutez, j'ai pris cette promotion avec beaucoup d'humilité. Si je la mérite, c'est parce que mes gendarmes ont fait un travail exceptionnel. Quand je dis mes gendarmes, c'est mes gendarmes territoriaux, mes calédoniens, mes jeunes gendarmes adjoints, mes sous-officiers venus aussi de l'Hexagone pour servir pendant 3-4 ans, les gendarmes mobiles qui ont été exceptionnels pendant cette phase de crise. Voilà, donc c'est aussi, et c'est comme ça que je le prends, la reconnaissance du travail de la gendarmerie ici sur ce territoire calédonien.
Vous connaissez votre successeur, le général Aouchin ?
Alors, je le connais puisque nous échangeons depuis quelques mois maintenant et je sais qu'il est déjà passionné par la Nouvelle-Calédonie. Il a lu tout ce qu'il fallait lire, il a rencontré les gens qu'il pouvait rencontrer à Paris. Il arrive ici avec beaucoup de détermination, beaucoup d'humilité aussi parce qu'il a compris que la Calédonie, elle était complexe et qu'il fallait essayer de la comprendre. C'est ce que je lui ai dit, ce que je lui redirai la semaine prochaine quand il arrivera. Il faut la comprendre avec l'esprit mais aussi avec le cœur. Il faut écouter, beaucoup écouter ceux qui savent ici. Et il faut, voilà, la Calédonie, la Nouvelle-Calédonie s'apprivoise et se comprend avec le cœur. Voilà, donc je connais sa détermination, sa joie aussi d'être placé à ce poste. Et nous aurons quelques jours pour passer le témoin, pour transmettre les consignes et puis pour l'aider à faire ses premiers pas.
Et malgré tout ce que vous avez vécu ici, vous restez confiant dans l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ?
Oui, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, je crois profondément que les Calédoniennes et les Calédoniens ont des ressources, ont toutes les ressources pour relever la tête et pour que de nouveau l'avenir soit serein.
Général Mateos, merci d'accepter votre invitation dans ce magazine Transparence.
Merci beaucoup, Elisabeth.